la dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jacques Azubert. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Marie Audroux, Anna Sigalevitch, Emmanuel Giuliani pour parler ensemble du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, dirigé par Sébastien Weigel. Mise en scène Robert Carsen. C'est une sortie en DVD chez Deka. Deux disques ensuite. D'abord Enfer, scène célèbre tirée des opéras de Rameau et Gluck par l'ensemble Pygmalion en CD chez Harmonia Mundi. Et puis Echoes, pièce de Philippe Glass et Sergei Rachmaninov par Henri de Marquette et Vanessa Benelli-Mossel chez Deka. Boris Pino est avec nous pour surveiller les fils Twitter et Facebook consacrés à cette émission. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Les bijoux de Pacotille de Céline Millia, Baumgartner. Place à gagner pour samedi le 17 mars à 20h30 au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec Richard Strauss, bien souvent considéré comme le musicien préféré des musiciens, et avec Le Chevalier à la Rose, son opéra peut-être le plus abouti, nous en débattrons ensemble. Filmé en 2017 au Met de New York, cette mise en scène de Robert Carsen et celle qu'il avait créée à Salzbourg, 13 ans plus tôt. Différence de taille pour cette reprise, outre la taille du plateau, on pourra en reparler, c'est à New York que René Fleming fait ici ses adieux au rôle de la maréchale qu'elle a imprégné de son immense talent pendant de longues années. L'ouvrage, composé en 1911 sur un livret d'Hugo von Hofmannsthal, l'ouvrage se déroule à Vienne, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La maréchale est avec son amant, Octavian, quand son cousin, le baron Ox, vient la déranger pour lui annoncer ses fiançailles avec la jeune Sophie. Il faut suivre les traditions, n'est-ce pas, qu'un chevalier aille porter à la fiancée une rose d'argent avant le mariage. Bon, c'est là que les choses vont se compliquer, on en parlera ou pas, on va quand même surtout parler de musique et de mise en scène. Écoutons tout de suite un extrait de cette production. depuis que Emmanuel Giuliani a suggéré que nous diffusions ce fameux trio issu du Chevalier à la Rose, j'ai écouté ça en boucle chez moi, je deviens un peu fou je crois, fou de beauté en entendant ceci. Mario Drou, tiens, pour commencer, et pour peine de surprise.
Oui, c'est ce qu'on fait les...
Quoi ?
À l'écoute, je trouve que c'est moins incarné que dans le DVD.
C'est un DVD, ce qui tombe bien, voilà. Remarquez.
Et moi, ça me manque là. Ça me manque de ne pas voir les visages, de ne pas voir l'intensité sur le... Voilà, j'ai trouvé que c'est très très lent, c'est très beau, voilà. Mais ça manque un petit peu de frémissement de vie pour moi, voilà. Même si effectivement, on est dans la résolution, je dirais, de tout, puisque celle qui doit se retirer se retire, étant plus aimable... Et les deux tourtereaux vont convoler, etc. Moi, j'ai ma petite idée sur la suite, à savoir que j'imagine quand même qu'au bout d'un moment, le petit Octavian, revenu de la guerre et ayant épousé sa bourgeoise, va peut-être revenir frapper à la porte du boudoir de la maréchale. C'est mon idée.
Ouais, voilà. Ce sera une version qui sera prochainement à l'Opéra de Vienne, livrée de Mario Drou, avec un quatrième acte. Sur ce qu'on vient d'entendre, Emmanuel Giuliani...
Peut-être aura-t-il été remplacé entre-temps.
Il y a des chances, parce que la maréchale n'est pas du genre à s'en laisser compter. Emmanuel,
vous l'avez bien connu, visiblement.
Très bien, mais je préfère ne pas en parler publiquement, tout le week-end notamment. Emmanuel, oui. Bah, musicalement, puisque Mario Drou fait la fine bouche,
oui,
déjà.
Oui, j'incriminerais peut-être un peu le chef,
oui.
Incriminons le chef, qui...
Dont on rappelle le nom tout de même.
Alors, il est vrai que
Sébastien Weigl.
Qui, évidemment, quand on est pris dans le DVD, dans le jeu des acteurs et des actrices en particulier, dans l'émotion du retrait de René Fleming, parce qu'on est, voilà, à chaque niveau, théâtre dans le théâtre, on est dans des adieux multiples, donc c'est vrai que c'est très émouvant, mais on sent bien quand même que le point faible de cette réalisation musicale, c'est un chef qui démérite pas et qui arrive à peu près, notamment au milieu du premier acte et au début du troisième, à mettre les choses en place, ce qui déjà mérite d'être salué parce que c'est quand même terriblement difficile, mais qui manque en effet de ce frémissement et surtout de ce sens absolu du legato et du fait qu'on ne sait pas à partir de quand on est passé de piano à mezzo forte, de mezzo forte à forte. Là, il y a cette belle apothéose à la fin, mais elle arrive un peu brutalement, alors que normalement, donc c'est un peu ça le problème global, disons, musical de cette interprétation.
Anna Sekalevich.
Mais je me suis même posé la question s'il n'y avait pas un problème de prise de son, en fait, c'est ce que je voulais dire juste avant. Bah, écoutez, je suis passée de LPCM stéréo à DTS 5.1 surround, parce qu'il propose les deux écoutes possibles. Je me suis vraiment, parce que j'ai commencé donc sans réfléchir par mettre LPCM stéréo, c'était le premier choix. Hein. Bon, voilà.
Sur votre menu de votre DVD.
Je me suis jamais posé ce genre de questions en regardant un DVD, mais j'ai été tellement gênée par l'orchestre en me disant je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Je n'entends pas les choses. L'orchestre est comme une matière très opaque, très compacte. Pardon,
oui, compacte.
Très compacte.
C'est une pâte.
Voilà, une pâte dont je n'arrive pas à comprendre. À quel niveau sont les cordes, les cuivres, etc. Et ça m'a tellement gênée que je suis passée sur l'autre, donc sur le
5.1.
DTS 5.1, voilà, surround. Et c'était un peu mieux, mais.
Mais pourtant, vous n'avez pas de home cinéma avec 6 points d'écoute, rassurez-moi, parce que c'est fait pour ça, normalement, le 5.1, donc comme son nom l'indique.
Non.
Voilà. Non, mais c'est. Donc, du coup, l'expérience est curieuse, mais pas inintéressante.
Mais pas inintéressante.
Je vais le faire.
J'entendais mieux, en fait, des choses, mais quand même pas suffisamment. Ouais. Et je me suis demandé si, dans la prise de son, les choses n'avaient pas été trop égalisées et compressées, parce que il y a un équilibre étrange entre l'orchestre et les chanteurs.
Ça, c'est vrai.
Ouais. C'est bizarre. L'orchestre, en fait, est très devant. On l'entend très bien, il est très net, il est très précis, mais c'est presque un orchestre comme une bande originale de musique de film. C'est-à-dire que ça accompagne, mais il n'a pas sa propre vie particulière.
Il est très présent, mais on entend en même temps très bien les voix.
Il y a quelque chose d'artificiel dans cette prise de son. Et donc du coup, je n'ai pas réussi à ressentir l'émotion de par les instruments.
D'accord, bon, je n'ai pas fait cette expérience-là du 5.1.
Mais je ne l'avais jamais faite.
Je vais la faire.
Ça nous ouvre des horizons formidables.
Mais bon, le chef, c'est une chose. Il me semblait effectivement, il me semblait en effet que c'était pas la partie la plus forte de cette production. Mais encore une fois, c'est un DVD, donc on est effectivement séduit. On va parler de ça, de la mise en scène de Robert Carson, mais ce n'est pas rien. Mais puisqu'on reste dans le domaine musical, parlons de ce plateau vocal et quand même parlons de ces adieux. Je l'ai dit en introduction de René Fleming, adieu à ce rôle, Marie Audreau.
Oui, c'est une des grandes maréchales. Hein. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Schwarzkopf, il y a eu Crespin, De La Casa, Félicité Lhôte, plus près de chez nous.
Plus près de chez nous. Elle est à côté de chez vous, alors. Très bien.
Annie Arthuros.
Dame, Félicité Lhôte.
Non. Mais effectivement, c'est une grande maréchale. Moi, ce que j'aime beaucoup dans sa façon d'interpréter la maréchale, parce qu'on a des maréchales qui sont très grandes dames, et déjà, finalement, parties comme si elles avaient une forme de réminiscence. Elles revivaient une forme de réminiscence d'un vécu, mais déjà terminé. Et là, on est vraiment dans quelque chose de parfois, elle a même des moments assez enfantins, je dirais. Presque, elle est vraiment dans l'instant présent, elle est vraiment dans toute la première partie avec Octaviane, c'est vraiment encore une jeune fille, et ça, elle le fait extrêmement bien, et le renoncement n'en est, je dirais, que plus douloureux. Donc c'est vraiment, c'est une maréchale extrêmement humaine, c'est d'abord une femme, avant que d'être un rang social, ou quelqu'un qui va avoir, cette espèce de morale, et cette espèce d'acceptation, et aussi de passation, parce qu'il y a aussi une passation, voilà, à la jeune fille qu'elle a été, qu'elle n'est plus, etc. Mais en même temps, cette projection est vraiment, c'est... Et puis alors la voix, évidemment, la voix, c'est double crème, hein. C'est comme ça, c'est son surnom. Et effectivement, même dans les aigus, elle garde toujours cette rondeur de timbre, ce phrasé. Alors je ne sais pas si l'allemand est parfait. Ça, j'avoue que j'ai pas d'avis sur.
C'est certainement pas moi qui vous le dirai.
La réputation qu'elle a en
tous
les cas.
Bon voilà, bon, pas, crois, mais bon, mais... peut-être qu'effectivement.
Voyons-le sur parole.
Quand on met sur 5 points un truc,
ce que l'allemand s'entend.
Elle chante espagnol en 5 points, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez.
Donc c'est vrai que ce sont des adieux, mais qui voilà, Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a quelque chose de poignant.
Oui, quand même.
Oui, tout à fait. Et voilà, et on l'accompagne pendant tout ce dernier chevalier qu'elle a chanté. Et voilà, c'est un moment magnifique.
Anna Sigalevitch sur René Fleming.
Oh bah oui, c'est très très beau, parce que ce qui est beau, comme le disait Marie Audreau, c'est que c'est une femme et que l'histoire d'amour, le couple qu'elle forme avec Octaviane à l'acte 1, on y croit vraiment à ce couple-là. Franchement, elle donne envie, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont très très belles toutes les deux. Il y a une sensualité,
canaille.
Il y a quelque chose. Elles sont canailles, elles s'amusent, il y a beaucoup de malice.
Il y a la sensualité.
Pour moi, la réussite de la mise en scène de Robert Carson, c'est toute la matière à jeu qui est donnée aux chanteurs. C'est-à-dire qu'elles ont des choses à faire tout le temps, en permanence. C'est très beau la façon dont... Enfin, pardon, j'ai glissé sur la mise en scène. Je reviens à...
Oui, non, mais vous avez raison.
À René Fleming, mais là, c'est vrai que c'est criant, parce qu'elles ont de la matière à jeu tout le temps, que ce soit...
Et quand vous dites « elle », on ne l'a pas précisé, Octaviane...
C'est Elina Garancha. Alors là, c'est vraiment incarnation idéale, à mon sens, d'Octaviane, parce que elle est...
Qui est un garçon dans la fiction.
Qui est un garçon, absolument, qui est un jeune garçon.
Reprécisons les choses.
Voilà, donc jeune mezzo d'une grande beauté, blonde, avec un visage un petit peu androgyne, en même temps encore très féminin, quelque chose de très innocent dans le visage, avec ces tempes toutes claires qu'elle a et ses petites fossettes au coin de la bouche.
5 points, plus loupe. Pour Sigalevitch, elle a regardé son écran avec une loupe, comme ça. S'est approchée.
Vraiment, je trouve qu'elle a un visage qu'on a envie de regarder. Ouais. Elle a quelque chose d'angélique et en même temps de canaille, comme
canaille,
vous le disiez.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a les deux. Donc au début, on croit vraiment en son amour, le désir fort. Enfin, la façon dont elles s'embrassent toutes les deux, c'est vraiment
ça
sensuel. Quoi.
Ça y va
vraiment. Donc elles se respirent, dont elles se touchent, c'est très beau. Et puis quand à l'acte 3, elle débarque elle doit se déguiser à ce moment-là en femme, puisque c'est un garçon. Et elle le fait très très bien parce qu'elle joue très bien au jeune homme qui joue à la jeune femme. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne se transforme pas bêtement ou de façon simple, comme font souvent les Octavianes, en « Ah super, je vais pouvoir exprimer ma féminité ». Elle est plus maligne que ça. Elle joue le jeune garçon qui joue à la jeune fille. Donc elle est pleine de subtilité, elle est très clownesque, elle fait des grimaces, elle s'amuse. En même temps, elle est ravissante. Au début, elle est d'une pureté, d'une innocence totale. Après, elle est canaille. Et à la fin, moi j'aime beaucoup, il y a une forme d'insolence qu'il y a dans le couple à la fin. C'est intéressant parce que dans le couple que forment Sophie et Octaviane à la fin, quand le père de Sophie débarque, ils sont censés quand même être un peu apeurés et faire un peu la révérence, quand même saluer le père qui arrive. Là, pas du tout. Ils sont lovés l'un contre l'autre dans un lit. Et c'est ça toute la cruauté de la pièce. C'est qu'à un moment donné, c'est cette cruauté de la jeunesse qui ne voit plus ce qui l'entoure et qui est dans son truc totalement.
C'est la pire. C'est-à-dire qu'ils sont dans un lit et ils sont dans un bordel. Oui. Voilà. Parce qu'en plus, ce que Carsen a fait, c'est qu'il a fait la dernière scène se passe, dans le lieu de perdition où le prétendant à la jeune femme, évidemment, s'est fait avoir complètement parce qu'il a été roulé dans la farine par Octaviane et par un montage, subterfuge comique. Et en fait, Carsen les laisse dans cet endroit-là et en fait, ils s'enlacent et on a l'impression qu'ils vont faire l'amour à la limite au-dessus de tout le monde. Et ça, effectivement, c'est très très fort, cette affirmation de la sensualité, du corps et de la chose qui continue et malgré tout. Voilà, alors, la force de vie, on pourrait dire presque.
Nous avons glissé très insensiblement vers la mise en scène et la direction d'acteur, et c'est très important d'en parler, évidemment. Mise en scène signée Robert Carsen, qui a le goût des grands et beaux décors. Alors, petite chambre à coucher pour la maréchale, à l'acte 1, donc qui fait tout le plateau, mais avec ce sens de la démesure.
Les ressorts sont formidables, ce qui leur permet aussi de jouer à Octaviane, de rebondir au trampoline.
Puis Carsen, c'est la fin de l'acte 1, beaucoup les profondeurs de plateau avec ces doubles portes qui vont se refermer, enfin, comme une perspective presque infinie, comme il aime à les faire, sur les parties prises de mise en scène, Emmanuel Giuliani.
Alors, je ferai juste un bémol, et on le voit d'autant plus au DVD, je trouve que costumes et perruques sont un petit peu ringards, pas très jolis, et Renée Fleming, qui est si belle, pourrait être encore plus belle si elle n'avait pas ses bouclettes un peu à la Margaret Thatcher, qui a oublié d'aller chez le coiffeur, et cette robe assez vilaine, puis les gants de Sophie, enfin voilà, alors que vraiment ce sont, comme vous l'avez dit, deux et trois avec Sophie, filles, actrices tout à fait qui jouent très bien, qui sont très charmantes et qui ont des visages vraiment très typés. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, Anna. En tant que spectateur, dès qu'on voit Octaviane, on ne peut s'empêcher de se dire, alors, est-ce que elle va être crédible en garçon et est-ce qu'après elle va être crédible en garçon se déguisant en fille? On ne peut pas s'empêcher de regarder certains Octaviane et certains Octaviane merveilleusement chantant ont quand même ce problème scénique. Et là, évidemment, Elina Garancha, qui je crois faisait aussi ses adieux au rôle.
Ah bon?
Il me semble me rappeler que c'est ce qu'elle disait, puisque ça a été retransmis dans les retransmissions du Met. Et il me semble que dans les propos de coulisses, elle expliquait qu'elle aussi, elle allait. Ça sera à vérifier.
Double
sur
tristesse.
5.1. Mais je crois que voilà. Et quelle question m'aviez-vous posée
sur les parties prises de mise en scène.
Alors en effet, un très bon jeu d'acteur qui s'étend aussi à Günther Grassbeck, qui s'en donne à cœur joie dans le rôle du baron Ox. Rôle terrible parce que vocalement terrible, et même s'il a pas tout à fait les graves abyssaux, il chante quand même extrêmement bien. Et puis il faut à la fois être odieux, un peu attendrissant, être le dindon de la farce, mais à la fois, surtout à notre époque où vraiment on regarde d'un œil très justement sévère tout harcèlement et tout mépris des femmes, il est absolument abominable à ce niveau-là. Et donc, il faut faire ça à la fois, tenir la distance parce que c'est un rôle écrasant, il est aussi formidable. Donc vraiment, il y a un plateau dramatique et musical de haut vol.
Dernier mot, Marie Audreau.
Oui, le fait aussi que Carsen ait choisi de mettre cette vienne de Marie-Thérèse sous les futurs feux de la guerre de 14.
De gros canons.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement. Rajoute encore à la nostalgie. C'est un monde qui déjà n'existe plus. C'est un monde où personne ne va plus se rencontrer. Et donc, on est en plus dans cet adieu, finalement, à cette époque-là, ce
premier
charme.
Premier acte dans l'or, le pourpre, et au deuxième acte, la grisaille de l'acier des canons.
C'est très important.
Exactement. Très important.
Le monde qui change, c'est une chose qu'il fait. Il l'avait fait déjà dans Capriccio. C'est-à-dire qu'au lieu de placer le spectacle au moment, à l'écriture du livret normal, il le place au moment de la création du spectacle. C'est-à-dire 1911. Là, il place le spectacle en 1911. Et on a à la fois l'aristocratie et les niveaux nouveaux riches qui se côtoient. On peut aussi penser, quand on voit le spectacle, que les nobles ne peuvent plus agir totalement impunément, qu'il y a des revanches possibles. On sent que c'est un monde complètement en mouvement. Il y a quelque chose d'hollywoodien aussi. Presque, ces canons, c'est presque des projecteurs, je trouve,
de cinéma.
C'est très évocateur et c'est extrêmement bien réglé. C'est pas révolutionnaire, mais c'est très très bien fait.
Ah, il est fort, de toute façon, Robert Carsen. Bon, ce Chevalier à la Rose, procurez-les-vous en DVD, en 5 points, bien sûr. sûr. Richard Strauss, direction, on a dit ce qu'on en pensait de Sébastien Weigel, mise en scène Robert Carsen. C'est sorti donc chez Descartes. À suivre dans la dispute, Rameau, Gluck, Glass et Rachmaninoff.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute musicale avec un disque baptisé Enfer au pluriel, scène célèbre tirée des opéras de Rameau et Gluck par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, avec le baryton Stéphane Degout, mais aussi quelques autres chanteurs, on va le dire. Un disque sorti chez Harmonia Mundi. Avant d'en parler, on écoute un extrait d'Armide de Gluck avec Stéphane Degout et Stanislas de Barbeyrac. Nous voici donc en enfer, ou aux enfers, puisqu'ils sont au pluriel, ici dans ce disque de Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Emmanuel Giuliani, vous commencez cette dispute avec vos petites fiches vertes,
tellement bien rédigées,
hein. Je les aime beaucoup, c'est un très beau verre.
Écoutez, je vous les offre à la fin de l'émission, c'est ça, un cadeau somptueux.
Je ne l'oublierai pas, je ne l'oublierai pas, revenons, rejoindrons le musée de la dispute.
Absolument. Alors... À vrai dire, quand j'ai reçu ce disque avant de l'ouvrir, en l'ouvrant, regardant la pochette, les photos, etc., je me suis dit, oh là là, c'est un disque concept, et ça peut, ou ça passe ou ça casse. Ça peut être absolument formidable, ou au contraire, est une manière chic et choc de nous dire, c'est pas un récital de plus, même si c'est un récital d'un admirable chanteur qu'on adore, et accompagné par d'excellents musiciens, un excellent chef, mais on sait bien que, voilà, le récital est parfois un genre un peu difficile au disque et qu'il faut, on a tendance à trouver des thématiques, pour montrer qu'on renouvelle le genre. Donc j'avais une méfiance qui, au fur et à mesure de l'écoute, est tombée parce que je trouve que c'est extrêmement bien fait. Cette méfiance se doublait aussi du fait que je venais de voir, comme vous j'imagine, le spectacle de l'opéra comique Et Sin Arcadia Ego, aussi, etc., que j'avais trouvé une abomination absolue. vue, aussi bête que... voilà. Et donc, je lui dis,
aussi
oh,
bête
Dieu,
que quoi, en fait
que, voilà, que rasoir, que pénible, enfin que tout.
Aussi bête qu'autre chose, oui.
Voilà. Et donc, je m'étais dit, mon Dieu, maintenant, si c'est la marotte et qu'on ne peut plus... quand on n'a pas les moyens de monter à un grand opéra, on nous fait ça pour nous dire qu'on... ça, trop, c'est trop. Eh bien, voilà, j'avais absolument tort, parce que globalement, même si... peut-être ici ou là, je peux avoir quelques petites réserves. Je trouve que vraiment, on part dans cette traversée des enfers qui est composée extrêmement intelligemment. Mmh. Il l'explique fort bien d'ailleurs, comme toujours dans les livrets Harmonia Mundi, où véritablement, on a un accompagnement intellectuel et sensible à l'écoute absolument formidable. Et donc, construit comme un requiem profane et mythique à travers donc ce chemin parmi Gluck et surtout Rameau. On pouvait craindre aussi que chez les deux compositeurs, l'absolu génie de Rameau écrabouille un peu son confrère. Eh bien, ce n'est pas le cas.
Vous voulez parler de l'absolu génie de Gluck?
Oui, en fait, oui,
très
peut-être.
Moi, je suis très gluckien. Voilà. Alors là, terriblement.
Moi, je suis un petit peu moins gluckienne par rapport à Rameau, mais Raphaël Pichon dirige extrêmement bien Gluck, ouais. et le nerf et la folie qu'il a peut-être pas encore tout à fait dans certains Rameau, il les a parfaitement dans Gluck, qui est peut-être une musique plus facile à diriger, et c'est mais très réussi, et il y a quelques moments absolument magnifiques, et c'est d'une très grande intelligence.
Alors, on va déjà lancer le débat, gluckiste ou comment dire, rameauien,
Ramélien,
bien sûr. Anna,
gluckiste
ou ramélienne?
Non, bon, franchement les deux. Moi, j'adore Gluck et j'adore Rameau.
Non, l'absolu génie de l'un.
Je pense qu'il n'y a pas du tout sujet à opposer les deux.
Non, mais c'est moi qui lance la question parce qu'Emmanuel Joly fait évidemment un distinguo très important entre les autres, entre les deux.
Je rejoins Emmanuel sur le fait qu'elle est de son inquiétude de préambule. Parce que moi aussi.
Préambulatoire.
Intéressant. Alors on va s'en prendre le nombre de. Bon. Oui, donc j'étais inquiète aussi, un petit peu traumatisée en effet par être in Arcadia Ego et par juste avant comment ça s'appelle le spectacle Miranda voilà oui, qui oui, voilà. Oui. Et là j'ai réfléchi parce que je me dis mais c'est marrant parce que ce sont des productions scéniques parce que Miranda au disque magnifique hein. C'est très très beau aussi la façon dont c'est construit. Donc je pense que voilà, ce qui est compliqué c'est de scéniquement mettre en place ce genre de programme, mais là il n'y a pas l'avantage. La prétention d'un opéra et d'une histoire qui se raconte, mais il y a une ambiance, voilà, un déroulé liturgique.
J'écris quelque part qu'il y avait peut-être un projet scénique, donc on va les en dissuader tout de suite.
Peut-être que si, parce que projet scénique, oui, mais le problème de Miranda, par exemple, c'est qu'on sentait qu'il cherchait à faire rentrer une histoire au chausse-pied. Or là, ce sont des évocations, c'est un parcours, on a toute la cérémonie de la messe des morts qui se met en place. Pourquoi pas un spectacle avec des visions, des... Bon, je sais pas, je suis pas metteur en scène, mais...
Au
disque, c'est un vrai voyage et on a vraiment le sentiment de rentrer avec lui comme ça dans cette descente aux enfers, c'est tonitruant au départ et puis petit à petit vers le côté céleste de la fin et la libération, c'est très très beau. On sent que Raphaël Pichon prend un plaisir fou à donner du nerf, à mettre des arêtes, à aller dans tous les sens. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement vivant, nerveux, en même temps de moelleux, de sensible, notamment dans les Gluck, dans les pièces de Gluck d'ailleurs. Et puis c'est très très bien chanté. Enfin, je veux dire Sylvie Brunet, c'est magnifique pour la cité, magnifique
il faut
ce qu'elle
absolument
fait.
Ah ouais. Qu'elle fasse Phèdre illico presto.
Ça lui va, mais
qu'elle fasse
ravir,
tout ce qu'elle peut faire illico presto.
C'est vrai que ça Phèdre.
Vous voulez pas qu'on dirige une maison d'opéra, c'est ça? On va faire une programmation.
Non, mais vraiment, elle serre le cœur vraiment. Elle
ah ouais. Qu'on n'avait pas entendu une Phèdre. Magnifique. Comme ça,
oui. Absolument.
Allez, Marie-Aude reprend
le
relais.
Oui, ben, j'avais pas trop d'appréhension parce que quand même Pichon, c'est un type très intelligent, très musicien, c'est aussi musicologue et c'est un musicologue qui est aussi quelqu'un du théâtre. Et donc, ce qu'il avait fait avec les Filles du Rhin en 2016 autour de Wagner et Schumann, c'était déjà extraordinaire. Oui. La Stravaganza d'Amore, où il avait parlé de toute la naissance d'opéra italien sans une note de Monteverdi, ou quasiment, c'est pareil. Même l'album qu'il a fait avec Sabine de Vielle, là, sur les trois sœurs Mozart.
Oui.
Voilà, donc j'avais pas trop d'appréhension. C'est vrai que moi, Je dirais qu'à la limite, il faut d'abord écouter et on lit éventuellement après si on a envie d'approfondir les choses. Parce qu'il y a quand même trois niveaux de lecture. Il y a à la fois le mariage Gluck-Rameau qui, voilà, qui peut effectivement être non pas sujet à caution, mais peut-être on peut se poser des questions sur le fait de les mettre en regard. Il y a aussi le fait qu'il y a ce personnage de tragédien qu'on connaît pas, qui s'appelle Henri Larrivé. Donc c'est censé aussi reprendre certaines des scènes ou des airs ou des opéras qu'il a chanté, puisque c'était un grand Ramélien et encore plus un grand Gluckiste, si j'ai bien compris. J'avoue que c'est quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Hein. Henri Larrivé, Bastaille réputé, bon, voilà. Parce qu'on ne disait pas baryton à l'époque. Et le troisième niveau, c'est d'avoir fait cette espèce de requiem païen et en même temps religieux, puisqu'il y a aussi un requiem qui aurait été attribué à Rameau et qui, en fait, aurait été fait par un anonyme provincial, c'est ce qu'il raconte mais quand même sur des thèmes d'opéra, ce qui fait qu'on a déjà à l'intérieur du requiem le fait de mélanger le profane, etc. Donc il y a une forme de mise en abîme. C'est très très virtuose si on regarde, et intellectuellement ça demande quand même d'avoir une pensée bien bien accrochée et de savoir comment on angle les choses et comment ensuite on les développe. Anna, vous parliez tout à l'heure du côté paradisiaque à la fin. Il arrive vraiment in extremis, hein, parce qu'on est quand même dans les enfers pendant les trois quarts du temps. Enfin, en tout cas, et ce qui est très très beau, quand on a quelqu'un comme de goût pour chanter toutes les tourments, les peurs, la terreur, parce que c'est quand même une grande réflexion sur la mort. Il y a l'aspect métaphysique aussi. Bon, là, il faut pas s'en priver. Et effectivement, ce récital, il lui va merveilleusement bien. Tous les autres, c'est pareil, hein. J'ai vraiment aucun bémol sur ce disque. L'orchestre, le chœur, enfin, on est vraiment là des gens qui sont à 100% dans la musique et qui la défendent merveilleusement. Et ce disque, on peut l'écouter en boucle.
Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de la spécialiste sur la prise de son, Anna Sigalevitch, qu'on sent?
Non, je
plaisante, parce que c'est absolument magnifique là aussi.
Parce que là, on entend tout, on a le moelleux, on a les respirations, on a la sensibilité. Il y a énormément de relief tout le temps. Oui. Et puis c'est vrai qu'on sent la cohésion entre tous, quoi. Franchement, à quel point Pichon et Degout sont ensemble, l'engagement. Enfin, on a par moments l'impression que c'est En voyant le... Moi, j'avais des images, par exemple, qui me venaient en tête, et j'avais presque l'impression que c'était Degout qui dirigeait. Tellement ils sont ensemble, et tellement les musiciens de l'orchestre et les chanteurs sont dans un même navire pour affronter ces enfers.
C'est beau. Emmanuel Giuliani.
On va dire que ce Stéphane Degout, il est vraiment en ce moment à son zénith. Hein. J'espère que c'est un zénith qui va durer longtemps.
Au moins jusqu'à la semaine prochaine, quand vous irez écouter donc Carlos de Verdi, mis en scène par Christophe Honoré, l'Opéra Lyon, dont on va parler dans la dispute dans 15 jours.
Il a tout, ce garçon. Il a une voix merveilleuse, il a une diction sublime, parfaite, il a une sensibilité, tout est théâtralisé.
Vous ne parlez pas de son physique, ça m'étonne de vous.
Non, en plus, c'est un beau garçon.
Voilà. Dites-le quand même. Non, mais la présence scénique,
c'est un très
ça
bon
compte.
Cuisinier, paraît-il. Ah, en tous les cas,
paraît-il.
Oui.
Vous le savez ou pas?
Non.
On va apprendre des choses ce soir. Bon, Emmanuel Giuliani. Non, que dire de plus? Vous avez fait le tour de vos fiches vertes.
Voilà, absolument mes fiches vertes, surtout qu'il n'y a que le recto, j'ai rien écrit au verso. C'est en effet un très grand chanteur qui a une voix...
On est en train de perdre Anna Sigalevitch, je pense.
Parfaitement reconnaissable. Et qui, en plus, sait la colorer la rendre plus ou moins opératique, plus ou moins religieuse, plus ou moins
instrumentale,
plus ou moins déjà dans les enfers dont on ne reviendra pas, ou au contraire encore un homme qui les visite pour en repartir, comme dans la scène de Thésée avec les parcs dans Hippolyte et Aricie. Et puis il est vrai que la fin in extremis avec cet extrait des Boréades est finir avec une musique dont on ne voudrait qu'elle ne finisse jamais, parce que c'est quand même un moment absolument incroyable. Et donc on a l'impression, que le disque, c'est nous qui partons, mais qu'en réalité, et ça va faire une transition admirable avec Phil Glass, que cette musique continuerait jusqu'à la fin des temps, dans les enfers ou dans le paradis, on ne sait plus, et c'est nous, pauvres mortels, qui devons passer, mais ça continue. Ça, c'est aussi une idée de génie.
Donc là, je dois conclure la séquence, c'est bien ça, Emmanuel?
Je vous fais ce que vous voulez, c'est vous le patron.
C'est la transition. Enfer, scène célèbre tirée des opéras de Rameau et Gluck par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, avec Stéphane Degout bien sûr très présent sur les plages de cet enregistrement, mais aussi les plages de cet enregistrement.
De cet enregistrement, oui.
Non, vous avez un commentaire à faire, Marion?
Non, absolument.
Très présent sur les plages cet été.
On verra s'il est aussi présent sur les plages cet été.
Il fait la tournée des plages. Le CD est sorti chez Harmonia Mundi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Je dis très présent sur les plages, mais j'aurais dit très présent sur les pistes où vous auriez pensé au ski.
Oui.
J'imagine.
Bien sûr, je suis tellement.
Vous avez la tête aux vacances en ce moment, Marie Audreau. Je crois que c'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème. Qui n'a pas la tête aux vacances? Troisième sujet de cette dispute, consacré ce soir à la musique avec un autre disque, Echoes. Echo, donc, en français et au pluriel, enregistré à l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton. C'est un disque d'Eka. Les échos en question donc, sont ceux qu'ont repéré la pianiste Vanessa Benelli-Mossel et le violoncelliste Henri Demarquette entre les œuvres de Sergei Rachmaninov et Philip Glass. Ont-ils eu raison? Nous en parlons après avoir écouté l'une des plages, l'une des pistes de cet enregistrement, en l'occurrence avec une œuvre de Phil Glass. Voilà pour The Poet Axed, c'est l'un des morceaux de la bande originale du film The Hours, composé par Philip Glass. Je vous avoue que j'aurais aimé, je vous l'ai dit aussi, nous avons communiqué dans cette émission, faire entendre Opening, qui vient de Glassworks, mais ça fait 6 minutes 30. Bon, c'était un petit peu long, mais parce qu'on est là quand même pour vous écouter parler, mais je trouvais que c'était très, au-delà du fait que c'est un morceau qui m'accompagne depuis très très longtemps, qui avait justement une écriture dont on peut moins parler pour The Poet Axe qu'on vient d'entendre. Mais bon, alors, Maître Philippe Glass et Sergueï Rachmaninov, à un même programme. Bonne idée, Anna Segalevitch, point d'interrogation.
Alors, idée étonnante.
Oui.
Voilà, a priori, ça, c'est déjà Glass... Bien.
L'idée étonnante, c'est déjà un début de bonne idée.
Non, pas forcément. Pas forcément.
Je sors du studio.
Non, non, non.
Je quitte cette émission.
Non, mais voilà, c'est étonnant. On associe parfois Glass quand même à des gens. Il y avait eu, par exemple...
À peu près à l'annuaire. Hein.
Il y avait cet hiver au Collège des Bernardins, les quatuors à cordes complets de Glass et de Schubert qui étaient donnés les uns après les autres aussi. Donc c'est pas évident comme rapprochement, en effet. Non. Alors c'est très systématique, en plus, ce qui est mis dans le disque. C'est pas une partie Glass, une partie Rachmaninov. C'est vraiment un Glass, un Rachmaninov, un Glass, un Rachmaninov, jusqu'à la fin.
Quand il y a une sonate, c'est quand même évidemment un peu plus long pour Rachmaninov, vous en conviendrez.
Oui, les mouvements ne sont pas entrecoupés par des petits mouvements.
Il faut quand même le préciser.
Ils sont pas au bout. Les quatre mouvements de la sonate...
Petite knee-play de Philippe Glass au milieu.
C'est drôle.
C'est drôle.
Non, voilà, ils ne sont pas allés jusque-là. Mais je dois dire que c'est un disque que moi j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup de plaisir et dont j'ai aimé, en fait, le déploiement. C'est un disque qui se déploie extrêmement bien. Là encore, c'est comme une traversée avec plus abstraite que celle des Enfers, mais avec, c'est une sorte de road trip un peu qu'on passe comme ça, on s'imagine traverser des paysages désertiques, on s'arrête, on reprend, les choses arrivent au bon moment, par exemple après la sonate de Rachmaninov qui est vraiment un morceau extrêmement dense, extrêmement conséquent, là il y a une pièce de Glass qui est beaucoup plus sereine, un moment de calme comme ça, qui est comme une respiration où on entend encore, on reçoit encore le Rachmaninov, on est plein du Rachmaninov, mais il n'y a pas trop de notes, et en même temps, il y a suffisamment de notes pour nous emmener après à nouveau ailleurs. Donc c'est très bien construit. L'arrangement de Bruno Fontaine des Glassworks, justement, est très beau.
Ah oui, je trouve ça magnifique, vraiment.
Absolument
opening,
magnifique,
c'est
parce
vraiment...
que dans les Glassworks, en fait, il y a plein d'instruments.
Il y a une dizaine d'instruments, mais dans Opening, piano.
Et un petit peu de corps à la fin, mais bon, voilà. Ouais. C'est essentiellement piano, et je dois dire que la ligne de violoncelle est très très belle.
Sans rien enlever au piano, c'est ça qui est assez habile.
Non,
justement.
Et absolument. Et alors c'est très étonnant parce que ces trois premiers morceaux, donc l'ouverture des Glassworks, puis la vocalise, puis la pièce de Glass, c'est presque comme une sonate, franchement. On peut l'entendre comme presque une sonate. Bon, j'exagère un peu.
Un peu.
Mais
c'est bien, continuez Anna, c'est comme ça qu'on vous aime.
Mais un petit peu, je trouve que le Rachmaninov pourrait être le mouvement lent de cette partie-là. Enfin, en tout cas, ça marche bien ensemble. Dans la sonate de Rachmaninov, à mon sens, le piano est un tout petit peu trop devant. Je trouve que c'est un petit peu fort. Mais sinon, je vais peut-être laisser la parole.
Peut-être.
Non, mais... le violoncelle et le piano sont très très beaux, hyper chantants. Ça m'a vraiment plu.
Alors, Marie-Audrey, il me semble déjà vous avoir lu dans Le Monde, que vous pensez de cet album.
Effectivement, j'ai adoré cet album, mais je dirais de manière complètement hors intellect. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai lu le texte de présentation, et j'aurais peut-être pas dû le faire, j'ai trouvé que c'était vraiment des justifications qui n'avaient ni queue ni tête.
Il faut jamais lire avant.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Après.
Voilà,
moi,
mais je voulais quand même justement, j'étais piquée par la curiosité, et quand même, bon, on connaît à peu près les musiques, donc c'est vrai que j'allais pas, voilà. Mais effectivement, je me suis dit, il cherche à faire rentrer. Dire quand même que Glass est peut-être le fils putatif de Rachmaninov. C'est peut-être Anna aurait pu le trouver peut-être puisqu'elle a.
Oh, okay.
J'ai pas dit ça.
Mais j'ai trouvé qu'il y avait un charme.
Très très petit fils de Bach là, si on veut. Mais
bah, pour moi, c'est
plus compliqué.
Le plus important, c'est vraiment le charme de ce disque. Ce côté atmosphère dans le bon sens du terme. Le fait qu'on a quand même deux musiciens qui sont de haut rang. Le violoncelle de Marquette, c'est juste sublime. C'est quelqu'un qui a un legato magnifique, le son, d'une clarté, de la sensibilité, enfin tout. Et cette jeune femme, je trouve, c'est qu'elle a du caractère, et j'aime bien les pianistes de caractère.
Ouais, ouais.
Même si elle grignote un peu sur le violoncelle, moi ça me dérange pas. Je trouve que voilà,
il y a une vraie rencontre,
elle est assez musclée par moments de son côté à elle en tout cas, et ça me déplaît pas. Mmh. Voilà. Et puis bon, c'est le, peut-être effectivement ce qu'on a écouté à la fin. Je suis d'accord avec vous, Arnaud. C'est pas forcément ce qui est le plus qui rend plus
hommage au travail. Voilà, oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on aurait fait entendre du Rachmaninov, ça aurait été du Rachmaninov.
Mais il y a aussi une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'on avait l'impression que chaque morceau était issu de l'autre.
Et ouais, ça, c'est ce que disait Anna.
Voilà,
on a les réminiscences quasiment d'une plage à une autre.
Et comme s'il y avait une nécessité,
oui,
mais qui
on
était,
a envie d'entendre ce
voilà,
qu'il y a après,
qui était une autre nécessité que purement musicale, ou en tout cas pas intellectuelle du tout, et pas du tout dans la construction logique des choses. Donc il y a une belle intuition poétique, je dirais, dans ce disque pour moi.
Comme c'est bien dit. Emmanuel Giuliani, allez-vous partager ce plaisir ?
Oui, j'ai tout à fait je remercie d'ailleurs Marie-Haute parce que c'est elle qui nous a conseillé.
Juste une question d'ailleurs à propos, est-ce que c'était il y a eu un concert ? C'était un enregistrement de concert ou est-ce que c'était enregistré dans les installations ? Parce que s'il y avait eu un concert, je râle vraiment de ne pas y avoir été pour le coup, là, j'aimerais bien qu'il se reproduise avec ce programme parce que ça doit être un moment et en plus j'ai pas le disque sur moi, c'est pour ça que je vous demande mais
c'était enregistré à la Fondation Louis Vuitton, à la Fondation Louis Vuitton, en avril 2017.
Oui. Oui, donc parce que je me demande si c'est un enregistrement vraiment pour le disque, mais qui n'hésite pas surtout à faire des concerts et puis on ira avec ce programme-là.
Absolument.
Pardon, je vous ai interrompu, Emmanuel Giuliani.
Oui, donc j'étais en train de remercier Marie-Haute parce que ce disque m'avait échappé. Et c'est vrai que, comme correspondance avec le précédent, on peut dire qu'on est aussi face à un concept, du moins une idée, voilà, que après on met en pratique. Et c'est vrai que même si, moi je n'ai pas lu le texte d'accompagnement, on a l'impression de composer un bouquet de fleurs où les fleurs vont vraiment très, très, très bien ensemble et ne se concurrencent pas. On pourrait se dire, est-ce que c'est là pour nous dire que finalement Rachmaninov, la passion expressive, voire sentimentale de Rachmaninov, a un côté beaucoup plus moderne et minimaliste, là je pousse un peu qu'on ne le croit, et que le minimalisme envoûtant de Fil de glace en fait est complètement lui aussi romantique et passionné pour peu qu'on le joue de cette manière-là, pourquoi pas, et à la fin du disque, ça se tient. À l'écoute, ça se tient tout à fait. Ça se tient même peut-être un petit peu trop, parce que contrairement à vous, moi je ne suis pas très fan de l'arrangement de Bruno Coulet, que je trouve un tout petit peu variétoche.
Pas Coulet, Fontaine.
Fontaine, pourquoi j'ai dit Coulet, mon Dieu.
Voilà. Fontaine, Coulet.
Coulet, Fontaine, et à cause de Bruno Coulet, voilà, et voilà. Oui, excusez-moi.
Ah oui.
Voilà. Mais bon, c'est la seule réserve. Ce qui est en effet très très beau, c'est les sonorités du violoncelle et cet aspect, comme vous l'avez souligné, assez charpenté et insolent du piano. Et notamment dans Rachmaninov, ça fait beaucoup de bien parce qu'on n'a pas les risques de dégoulinade qu'on peut avoir de temps en temps. Et puis, à la fois, sans doute aussi grâce à la prise de son, on sent toute la palette instrumentale et les variations et les contrastes instrumentaux que peuvent avoir, bien sûr, le piano, on le sait, et le violoncelle, qui prend des côtés presque instruments électriques par moment. À d'autres, c'est une voix humaine. On parlait de Sylvie Brunet, on a l'impression qu'on entend encore une merveilleuse mezzo contralto chantée. Et ça, on en jouit sensuellement, vraiment très profondément à travers ce disque, dans la traversée que vous avez dite, Anna. Donc ça, c'est très précieux et c'est très bien fait. Et les timings aussi, à la fois les tempos choisis par les tempi choisis par les musiciens et les timings des différentes pièces, avec ce petit continent au milieu de la sonate de Rachmaninov, ça aussi c'est très très bien pensé,
très bien.
Ce qui fait qu'on a vraiment une écoute fluide, souple, c'est oui d'une grande intelligence et c'est vrai qu'on aurait envie de l'entendre en concert.
C'est vrai que j'avais oublié de demander à Anna Sigalevich ce qu'elle pensait de la prise de son de ce disque chez Decca.
Maintenant, vous allez arrêter de vous moquer tous de moi. Hein.
Non, mais
je suis la risée de cette émission.
Pas du tout, au contraire. Vous savez à quelle tendresse je vous le demande. C'était pour vous redonner la parole et pour surtout que vous puissiez dire ce que vous avez envie de dire.
Oui, encore dire que peut-être ce qui est beau aussi, je trouve, c'est que c'est en effet le fait que l'un et l'autre, bon alors moi je trouve que quand même le piano est un peu devant dans la sonate de Rachmaninov, mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est pas mal qu'elle cogne et qu'elle attaque un petit peu qu'elle taquine le violoncelle. Et ce qui est beau, c'est que ni l'un ni l'autre ne cherche à faire du beau son. Le son n'est jamais enrobé, il y a une forme presque de rusticité par moment, ce qui n'est pas toujours franchement le cas quand on joue ce genre,
pour ce genre
ni pour Glass, ni pour Rachmaninov. Et la forme de droiture qu'il y a et en même temps de son hyper chantant. C'est-à-dire que les lignes sont magnifiques, mais elle dégouline pas dans toutes les dans tous les sens. Voilà, il y a quelque chose quand même de très tenu. Et moi, j'aime cette tenue et cette réserve aussi qu'il y a.
Mario Drou.
Oui, complètement d'accord. C'est vrai que ils sont dans la musique tout de suite et ils y sont de manière, je dirais, ils empoignent les choses et ça, voilà, il y a un bras-le-corps, hein, et ils sont avec leur dans la musique dans les bras et on sent qu'ils la tiennent, et ils la portent et ça, je trouve ça magnifique.
Bon. Qui on pourrait marier après Philippe Glass et Sergueï Rachmaninov? On a une minute pour avoir d'autres suggestions à faire.
Eh bien, je trouve que le disque de Célimène Daudet, qui, alors, elle ne les alterne pas, mais qui associe le deuxième cahier, le deuxième livre des préludes de Debussy à des préludes de Messiaen, ça marche aussi très très bien. Et quand on joue Debussy et Chopin, ça marche très bien, puisque souvent, on aime que les pianistes jouent Chopin comme si c'était du Debussy, inversement. Donc, en fait, il y a beaucoup de mariages qui sont possibles. Hein, oui.
Vous avez une idée, Anna Segalevitch?
Là, comme
pas
ça,
tout de suite.
Non, pas à la seconde.
Et Marie Audreau, de son côté?
Moi, je ne marie pas, non.
Je me rappelle un récital de Paul Lewis, Mozart Ligeti, où il intercalait, c'était incroyable. Bon. Mais c'était Paul Lewis aussi.
Bon. Jolanie, elle a plein d'idées.
Elle va monter sa maison
de référence. Oui. En plus d'une maison d'opéra.
Si on fait la maison d'opéra, on ne peut pas faire aussi la maison d'opéra.
On fera la belle.
D'accord, avec des pistes et des plages.
Avec des pistes et des plages, du ski et du soleil. Nous parlions d'Echoes, Henri de Marquette et Vanessa Benelli-Mossel, qui ont donc entrecroisé et un peu marié Philippe Glass et Sergueï Rachmaninov. C'est un CD qui est sorti chez Decca. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Camille André nous a rejoint. D'ailleurs, je note que Boris Pinot a été bien muet ce soir, car les réseaux sociaux l'ont été aussi. Vous n'êtes pas assez motivés ou nombreux sur la musique, parce que peut-être nos auditrices et auditeurs ont parfois peur des propos qu'ils pourraient écrire et qui pourraient être repris par les critiques si brillants que nous avons autour de cette table. On les comprend, mais n'hésitez pas quand même à nous faire part de vos commentaires. Bon, Camille André est là, elle, et on va l'entendre comme tous les soirs pour le jeu de la dispute. D'abord, un rappel de la question d'hier soir pour nous donner également sa réponse, Camille.
Eh bien, dans quel film d'anticipation Ridley Scott dépeint-il le 21e siècle américain? Et il s'agit de Blade Runner.
Très bien. On fait gagner ce soir des invitations pour un spectacle, Les bijoux de pacotille de Céline Millia Baumgartner. Des places à gagner pour samedi 17 mars à 20h30 au Théâtre du Rond-Point à Paris. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, avec Les bijoux de pacotille, Céline Millia Baumgartner retrouve les planches du Théâtre du Rond-Point. Pour quelle autre pièce y était-elle présente de 2004 à 2005?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Préparez donc vos commentaires pour l'émission de demain. Demain, il sera question d'art plastique à 19h dans la dispute. Nous serons avec Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Florian Guettet pour parler ensemble de la formidable exposition Jean Fautrier au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et nous passerons du temps aussi dans le Palais de Tokyo qui vient d'ouvrir sa nouvelle saison baptisée Discord, fille de la nuit.